La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et ce soir c'est Clémence qui va vous parler d'Ucologie, la nouvelle association dédiée au respect de l'environnement à l'Université catholique de l'Ouest. Ils et elles ont déjà installé un composteur au milieu du parc Bazin du campus. Lola, Morel et Anne-Line Dintilac sont venues présenter l'association. En deuxième partie d'émission, c'est Louis qui viendra vous faire une chronique explicative sur des enjeux géopolitiques, à savoir ce soir le coup d'état qui s'est tenu il y a quelques jours en Birmanie. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Du nouveau dans le parc de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Un composteur a été installé parc Bazin le 1er mars dernier pour récolter vos biodéchets. Derrière ce projet, l'association Les Ucolos, qui est ouverte à la fois aux étudiants et aux salariés sur toute l'Université catholique de l'Ouest. Aujourd'hui, on accueille Lola Morel, membre du CA et de la commission logistique, accompagnée de Aline Dintillac, membre du CA, pour représenter l'association. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour, merci.
Donc le composteur peut accueillir des biodéchets. Qu'est-ce que ça englobe comme déchets ?
Alors du coup, les biodéchets, c'est tout ce qui est épluchures de légumes, de fruits, mais c'est aussi tout ce qui est petit carton, donc ça peut prendre la forme de, par exemple là je pense à des rouleaux de papier toilette ou des rouleaux de papier sopalin qu'on peut déchirer en petits morceaux. Ça peut être aussi des coquilles d'œufs qui sont brisées. Et en général, voilà, donc ça, c'est à ça que je pense en premier, là je sais pas si... d'autres idées, Anne-Line, mais...
Non, c'est tout ce qui n'est pas animal, déjà, dans un premier temps, pas animal.
On a donc, du marc de café aussi.
Donc, pas de viande.
Voilà, pas de viande, pas de croûte de fromage. C'est vraiment tout ce qui est reste végétaux, en particulier. Voilà, ça peut être des coquilles de noix, ça peut être effectivement le marc de café, toutes les épluchures, les peaux de banane, les trognons de pommes, tout ce qui va finalement retourner à la terre en la renourrissant.
Et du coup, ça crée du compost. À quoi est-ce qu'il va servir ?
Ce compost-là, dans un premier temps, donc on va le récolter et c'est ça le projet qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'un maximum d'étudiants et de salariés de l'UCO puissent l'utiliser. Ensuite, ce compost, il va maturer pendant un an. Et ensuite, donc avec les Ucolos, on développe un projet de potager collectif que l'on installera aussi plus tard dans les prochaines semaines là, à l'UCO. Et donc ce compost-là, il pourra servir directement en fait pour ce potager-là. Puis de toute façon, là, on pense mettre en place sur le composteur une adresse mail pour les questions, etc.
On va revenir sur l'association. Depuis quand est-ce que vous existez ?
Alors l'association existe depuis très peu de temps, elle existe depuis le mois de novembre et on a eu notre AG constitutive fin novembre, début décembre, j'ai un petit doute. Ouais. Et donc c'est une association qui est relativement récente, même si le travail et l'idée derrière est un peu plus, date d'un peu plus longtemps. Et sa mise en œuvre là, ça y est, on est bien content qu'elle soit bien lancée.
Oui, vous m'aviez dit qu'il y avait quand même pas mal de bénévoles, alors qu'en soi, ça fait quelques mois que vous vous étiez lancée.
Ouais, donc on compte aujourd'hui une soixantaine de bénévoles. C'est vrai que là, l'association est active que depuis à peu près janvier, puisque c'est vrai que les étudiants peuvent retourner en cours depuis janvier, et c'est pas encore le cas de tout le monde. Mais donc voilà, donc on est assez content. C'est déjà un très bon début.
Au niveau de l'adhésion, comment ça se passe ?
L'adhésion, elle se passe sur la plateforme HelloAsso, sur le point de vue technique. Il y a une adhésion qui est soit à une adhésion annuelle à 2 euros, soit une adhésion des bienfaiteurs, ce qu'on appelle l'adhésion des bienfaiteurs, qui s'engage à adhérer pendant un minimum de 5 ans. Et donc cette adhésion-là, elle est à 25 euros. Le principe, c'est qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein à l'adhésion à l'association, ni que la durée des études soit un frein et bloque, tout en permettant aussi aux personnes qui veulent s'engager à plus long terme et donc d'assurer la pérennité de l'association, de pouvoir justement signifier qu'elles s'engagent à plus long terme.
La pérennisation, ça rejoint aussi votre volonté d'ouvrir l'association à la fois aux étudiants et aux salariés. Le fait qu'il y ait des salariés, c'est des personnes qui du coup sont présentes sur les campus pendant plus longtemps. Est-ce que ça vous permet aussi d'avoir peut-être plus de poids dans les décisions, plus de, au niveau de votre réseau, pour vous aider à mettre vos actions en place ?
Ouais, tout à fait. Moi, du coup, je vais prendre l'exemple du composteur. C'est vrai que c'était un projet personnel au tout départ. J'avais contacté La Belle Verte, qui est les prestataires qui nous ont aidés à mettre en place le composteur. Et c'est vrai que j'avais eu du mal à rentrer en contact avec des personnes qui s'occupent du développement durable à l'UCO. Et en fait, cette association, elle permet aussi un dialogue entre les salariés et entre les étudiants, les projets, et mettre en commun tous nos projets.
Ça permet aussi une grande transversalité entre les étudiants de toute faculté. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans les associations étudiantes, qui sont très souvent localisées. Alors, je ne dis pas toutes, hein, évidemment, mais qui sont assez souvent localisées. Là, ça permet un dialogue vraiment interfacultaire. Et le fait d'avoir aussi des enseignants ou des personnels, ça permet d'avoir une connaissance aussi des leviers, des services auxquels s'adresser, et de porter aussi une voix peut-être un peu plus... Voilà, une voix transversale, finalement, sur les sujets, et d'avoir une écoute qui, elle aussi, est transversale.
Pourquoi est-ce que chacune, personnellement, vous avez décidé de vous engager à cette échelle ?
Alors, de mon côté, ça fait un bon bout de temps que je travaille ici. Je tairai le nombre d'années. Et ça fait très longtemps aussi que, dans ma vie quotidienne, la transition écologique est vécue au niveau de ma vie privée. Et c'est vrai que le fait en plus que je travaille sur du numérique, je suis d'autant plus consciente de l'impact de l'humain, l'impact visible et l'impact invisible sur l'environnement. Et c'est quelque chose qui, moi, me gêne vraiment. Et donc, le fait de pouvoir accorder mes violons, aussi bien au niveau de mes valeurs personnelles que professionnelles, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et connaissant aussi les personnes qui ont fondé l'association, c'était évident que j'allais m'engager très rapidement dedans.
Et pour ma part, c'est vrai que j'ai évolué dans un cercle familial très sensibilisé aux problématiques environnementales. Et depuis que je suis entrée du coup dans les études supérieures, c'est vrai que j'aime beaucoup m'engager quand j'y vois l'opportunité et l'occasion pour des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc l'environnement fait partie de ces sujets-là. Et en début d'année, donc j'ai porté un projet de composteur collectif. Alors de base, c'était pas du tout volontaire. Je souhaitais juste de moi-même, à partir de mon des déchets de mon appartement, pouvoir composter avec un composteur de quartier. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec La Belle Verte. Suite à des discussions avec donc Eric Sabot qui s'occupe de La Belle Verte, j'ai pu constater que d'autres écoles comme l'ESA avaient pu eux aussi développer un composteur collectif, et que ça permettait à plus d'étudiants du coup de participer, et donc d'être sensibilisés à ces problématiques là. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer ce projet là. Donc je me suis lancée dans ce... C'est aussi pour ça que je suis rentrée en contact avec Jonathan Lullet, qui m'a parlé du coup de cette association. Et c'est vrai que rentrer dans cette association, pour moi, c'était l'occasion aussi d'assurer du coup la pérennité du composteur collectif que j'allais mettre en place, et voilà, d'avoir aussi de l'aide, parce que c'est vrai que c'est un projet assez conséquent. Ça m'a aidé à apporter ça. Donc pour moi, c'était une évidence quand l'association s'est créée que j'allais participer.
Il y avait déjà des choses qui étaient mises en place à l'UCO en matière de respect de l'environnement, même si vous voulez taire le nombre d'années.
Alors au niveau du respect de l'environnement, au niveau de l'UCO, il faut savoir quand même qu'on est sur un campus qui était très vert à la base, avec des botanistes qui ont géré le parc pendant plusieurs années. Alors comme j'aurais un peu peur de me tromper sur les noms, je vais aussi m'abstenir ici. Mais il y avait des serres, il y avait des serres dans le parc. Au niveau du campus, il y a une mission campus durable, donc qui est dont Jonathan Lullet a la charge depuis plusieurs années. Donc ça, c'est une action qui est portée vraiment au niveau des salariés, de la responsabilité sociétale et environnementale d'entreprise, donc vraiment au niveau RSE. Et au niveau des étudiants, il y a une association qui est proche de ces questions-là, puisque c'est le GESC, le groupement des étudiants de sciences de la Cato, mais qui ne s'adresse pas que aux étudiants de sciences, mais bien à tous les étudiants qui s'intéressent à ces sujets-là, qui cherchent à valoriser les collections de l'UCO. Et c'est vrai qu'au niveau des sciences, on a quand même des collections botaniques, des collections géologiques, des collections d'instruments scientifiques qui viennent en appui dans les formations, mais qui sont aussi la preuve et la trace d'un passé qui a été très très riche sur la place de l'environnement dans l'université.
Oui, en fait, l'université catholique est vraiment très liée par son histoire à l'environnement.
Oui, et il y a un an et demi, je crois, elle a signé un engagement numérique responsable lors de la Connected Week à Angers, donc au niveau je crois que c'était une vingtaine d'entreprises qui ont signé une charte d'engagement sur le numérique responsable. Donc ça montre aussi que c'est quelque chose qui est porté au niveau politique et un enjeu dont un enjeu dont on est conscient au niveau de l'université globalement.
J'ai vu que vous cherchiez pas mal de matériaux, donc via votre compte Instagram, différents outils, des matériaux pour bricolage, pour le jardin, de la vaisselle, de la mercerie. À quoi ça va servir?
On a prévu de faire une collecte d'objets aussi pour un peu dans le même genre qu'une recyclerie. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'objets qui étaient jetés, par exemple des chaises à la cato ou autres. On aimerait vraiment réutiliser ces objets et leur donner une seconde vie. Et donc voilà, et la collecte d'objets qu'on organise, c'est vraiment dans cette idée-là de réutiliser un maximum tous ces objets qui peuvent avoir du coup une seconde vie et dont il est dommage de se débarrasser.
Ne serait-ce que le matériel pour jardinage, tu parlais de peut-être faire un potager.
Voilà, complètement. C'est des choses qui pourront servir par la suite dans nos projets. Et donc là, pour le potager, ça serait super de réutiliser des matériaux qui ne servent plus pour voilà, pouvoir...
Tu sais précisément s'il y a besoin de quelque chose, on ne sait jamais, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont du matos à filer, qui n'utilisent pas, ou des semis.
On est une association qui est très preneuse, donc si la moindre personne a quelque chose dont il ne se sert plus, et c'est vrai que des fois on ne pense pas forcément que cet objet peut servir à quelqu'un d'autre et à autre chose, parce que des fois les objets n'ont pas qu'une seule valeur, et donc oui, on est preneur bien évidemment.
C'était l'appel à donnez-nous des pelles.
Voilà, c'est ça, l'appel à objets.
Vous souhaitez proposer des formations à l'avenir, est-ce que t'en sais un petit peu, enfin, t'as des idées, des thématiques ou comment ça pourrait se passer?
Ouais, alors la première formation qu'on va proposer, c'est surtout une formation pour devenir maître composteur. Et donc pouvoir s'occuper justement de ce composteur-là, de le maintenir en bonne forme. J'entends par là s'assurer que il n'y a bien que des biodéchets dans son compost, qu'il est bien retourné, puisque à chaque fois qu'on doit passer, on doit rajouter une certaine dose de broyat. Donc c'est la matière sèche qui sera à côté du bac. Et bien remuer qu'il n'y ait pas d'odeur et que ça se passe bien, que la maturation se mette déjà en place. Donc ça, c'est la première formation qu'on va proposer et qu'on a déjà proposé à nos membres de l'association, mais également à tous ceux qui s'occupent des pôles environnement des associations d'étudiants, et à tous ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Après, par la suite, il y en aura d'autres, mais là, pour au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire grand-chose sur ça.
Vous communiquez également sur des conférences qui sont en rapport avec l'environnement. Donc, ce n'est pas vous directement. Tu m'as dit que c'était le GESC, c'est ça?
Alors, il y a le GESC qui met en place beaucoup de nombreuses conférences et qui a fait un partenariat notamment avec du coup le master en développement durable et qui a organisé plusieurs journées, il me semble, en début d'année, une ou deux journées, il me semble. Sur ces thématiques-là, donc vraiment tous les sujets qui peuvent toucher au développement durable. Donc ça, c'était en partenariat avec le GESC, mais ça ne touchait pas encore l'association des Ucolos. Mais donc c'est une association qui est assez active sur ces sujets-là également. Et donc oui, pour nous, ça sera intéressant par la suite de également aider ces conférences-là et pourquoi pas nous en proposer, rentrer en contact avec des personnes qui peuvent discuter avec les étudiants et salariés, donc, puisqu'on touche les deux publics. C'est aussi pour ça qu'on a une commission, on a trois commissions, et une commission qui est dédiée au partenariat.
Oui, partenariat avec aussi bien les autres associations qui peuvent être sur le campus que d'autres acteurs au niveau de la ville, c'est ça?
C'est ça. En fait, le but, c'est de aussi aider des associations, comme par exemple des associations de théâtre qui souhaiteraient réaliser toute une journée de spectacle et qui souhaiteraient tendre vers le zéro déchet. Nous, notre but, ça serait aussi de les aider. Donc voilà, ça pourrait toucher toute association, notamment aussi les associations d'étudiants. Je pense au bureau des étudiants qui organise en temps normal,
qui organisait,
voilà, c'est ça, des événements, des soirées étudiantes et qui font pas forcément attention à toutes ces problématiques. Donc ça serait aussi pouvoir les aider, elles, et après développer d'autres partenariats, bien sûr, comme avec des intervenants qui pourraient nous parler de ces sujets-là.
Enfin, dernière question, est-ce que vous êtes fiers de votre nom, les Ucolos?
Alors oui, bien sûr, on est fiers.
Ça s'est passé comment quand vous avez trouvé le nom de l'asso?
Je ne peux pas dire le contraire, mais en fait, on a débattu pas mal. On a tous proposé un nom au départ, donc avec toutes les personnes qui étaient... qui répondait au premier mail, vraiment dans les premiers échanges. Et donc, on s'est mis d'accord, on a tous voté pour ce nom-là. Et ça s'est passé de la même façon pour notre logo. Et donc voilà, c'était vraiment suite à des échanges et à un vote où tout le monde a participé, bien sûr.
Merci Lola, merci Anne-Line.
Merci à toi.
Pour suivre les initiatives des Ucolos, rendez-vous sur leur compte Instagram, @associationlesucolos. Ucolo, ça s'écrit UCOLOS. Yes. Vous avez d'autres réseaux sociaux ou c'est...
Alors pour l'instant, on se limite à Instagram, mais bientôt on arrivera sur d'autres réseaux sociaux, j'en suis sûre.
Ok, ça marche. Ah, merci beaucoup.
Merci à toi.
De retour dans la Covidienne, toujours sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Tourmobourg avec le titre Ode to Love. Et on accueille pour la fin de cette émission Louis en studio. Salut Louis.
Salut. Depuis plusieurs semaines, on parle de la Birmanie. Ce pays d'Asie du Sud-Est de 50 millions d'habitants a connu un coup d'État le 1er février. Depuis, c'est la junte militaire qui gouverne. C'est le moment de faire un petit point.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Birmanie ?
Alors, le 1er février, le pays se réveille dans la stupeur. L'armée s'est emparée de l'hôtel de ville de Rangoon, la capitale économique. Aung San Suu Kyi, la présidente birmane, est accusée par le chef militaire d'énormes irrégularités lors des législatives. En fait, après ces élections très en faveur du LND, la Ligue nationale de la démocratie, l'armée craignait de perdre une partie de ses pouvoirs. Elle, qui a toujours eu un rôle prépondérant, n'acceptait pas cette défaite. Et puis, l'ambition du chef militaire Min Aung Hlaing a sûrement joué elle aussi un rôle. En fait, l'armée échappe complètement au contrôle du gouvernement civil.
Comment ça se fait que l'armée échappe comme ça à ce contrôle ?
En fait, c'est assez simple. En 62, le régime est dirigé par une dictature militaire marxiste. Et puis en 88, une junte militaire s'organise. En fait, une junte militaire, c'est un groupe de militaires de haut rang qui se saisissent du pouvoir politique. Et le pouvoir, quoi qu'ils connaissent des crises, comme la nomination d'Aung San Suu Kyi comme prix Nobel de la paix en 91, continue de fonctionner. Mais les manifestations de 2007 et le boycott du référendum en 2010 conduisent à la dissolution de la junte en 2011. Depuis, la Ligue nationale pour la démocratie de Aung San Suu Kyi travaillait pour la démocratisation de la société. L'armée conservait tout de même la majorité des sièges de la Chambre et des places importantes dans l'économie. Elle a le quasi-monopole dans certains secteurs clés. D'après certains experts, l'armée serait un état dans l'état. Le pays a connu 50 ans de dictature militaire depuis son indépendance.
Mais alors pourquoi est-ce que maintenant la junte militaire a organisé ce coup d'état ?
Officiellement, Min Aung Hlaing accuse la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi d'avoir importé illégalement 6 takiwalki et d'avoir violé les règles mises en place pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Au-delà de ça, l'armée a décrié les législatives. Ils pensent que les élections ont été truquées. Ils affirment avoir agi pour la stabilité du pays. Ces accusations ont évidemment été démenties par la commission électorale.
Et plus officieusement ?
Officieusement, certains Birmans témoignent de l'ambition personnelle du général militaire. Et puis avec cette victoire écrasante de la LND, il craignait sûrement la perte d'une partie de ses pouvoirs. La veille de ce coup d'État, le FMI avait versé 300 millions d'euros à la Birmanie. Il pourrait profiter de ses positions pour faire ce que bon lui semble avec cet argent. Et puis, Min Aung Hlaing est déjà âgé de 65 ans, l'âge de la retraite obligatoire dans l'armée birmane. Il aurait alors été privé de sa position privilégiée d'intermédiaire.
Et qu'est-ce qui se passe alors maintenant ?
Alors, si on continue d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'une résistance s'organise. Depuis 10 ans, le pays connaissait une évolution rapide à la fois de sa société, mais aussi de sa démocratie. Depuis ce coup d'État, une désobéissance civile s'organise. Et elle peut s'expliquer par des facteurs assez simples. La génération Z, la génération des 18-30 ans, n'ont connu que la démocratie, un monde ouvert et connecté. Et grâce aux réseaux sociaux, la jeunesse, à la fois sur Internet et dans les rues, se mobilise pour protester contre le putsch. Depuis le coup d'État, la Birmanie est secouée par une vague de manifestations pro-démocratie et une campagne massive de désobéissance civile. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se retrouvaient dans les rues depuis le 1er février. Les manifestants appellent aux grèves générales, les trois doigts levés, comme symbole de protestation emprunté à Hunger Games.
Et alors comment est-ce que l'armée a réagi à tout ça ?
D'abord, pour calmer ces manifestations massives, l'armée a promis d'organiser de nouvelles élections libres d'ici un laps de temps inconnu. Ils ont ensuite décidé de couper les réseaux Internet à certains moments de la journée. Mais l'armée, aujourd'hui, fait bien pire. Elle a décidé de libérer 23 000 prisonniers de droit commun pour semer le chaos et pouvoir intervenir encore plus violemment. Elle cherche aussi à diviser les ethnies de Birmanie, très nombreuses, afin de pouvoir mieux régner. Mais les manifestations continuent. Après les jets d'eau et les balles en caoutchouc, l'armée tire maintenant un bal réel, sans sommation, interpelle et emprisonne. 40 manifestants ont déjà perdu la vie, un millier de manifestants a été arrêté, mais rien n'y fait. L'intensification de la répression n'a pas raison de la détermination birmane. Les protestataires réclament toujours le départ de la junte et continuent de descendre dans la rue pour demander le départ des putschistes et la libération des centaines de détenus emprisonnés ces dernières semaines.
Et quel regard portent les organisations internationales sur cette situation tendue ?
Alors ça dépend. Human Rights Watch, l'organisation, elle, appelle à faire pression, des pressions économiques sur les multinationales qui ont des intérêts en Birmanie. Suzuki a déjà annoncé avoir suspendu ses activités dans le pays. L'ambassadeur de Birmanie à l'ONU a appelé à la fin du coup d'état militaire. Il a tout de suite été démis de ses fonctions. Il est un traître pour Min Aung Hlaing. Le Conseil des droits de l'homme, lui, affirme toujours son soutien à la démocratie et demande le retrait de la junte militaire. Et des sanctions pourraient aujourd'hui, ce 3 mars, être prises. Les 15 membres du Conseil de l'ONU se réunissent en effet afin de se pencher d'autant plus sur la question de l'avenir birman qui, lui, reste toujours en suspens.
Bien, on suivra ça avec attention. Merci Louis pour cette chronique explicative. On te retrouvera très bientôt pour de nouveaux questionnements. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations sur l'association Ucologie, vous pouvez les suivre sur Instagram @associationlesucolos, UCOLOS. Ce soir, sur les ondes de Radio Campus Angers, c'est votre émission, c'est votre soirée hip-hop. On retrouve avant ça le coureur de funk, suivi du traditionnel combo Scratch Fellas et La Mine. On se retrouve quant à nous pour la dernière Covidienne de la semaine demain soir. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée sur Radio Campus.